Vous écoutez le Libre Journal de la Résistance française, dirigé aujourd'hui par Bernard Anthony, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 17 juillet 2019, de 18h à 21h et réalisé par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour, et presque bonsoir maintenant. Je suis ce soir avec Jeanne Smith.
Bonsoir, bonjour, chers auditeurs. Jeanne. Bonsoir, Bernard.
Avec Guillaume de Thieulois.
Bonsoir, Bernard. Bonsoir aux auditeurs.
Avec Jérôme Triomphe.
Bonsoir à tout le monde.
Vous le pensez bien, cette émission va être entièrement consacrée. Donc, l'événement tragique qui a marqué non seulement la vie de la France, mais peut-être même la vie de notre civilisation, ou de ce qu'il en reste, dont là nous allons parler durant cette émission, de Vincent Lambert bien sûr, mais de la signification du martyre qu'il a subi. Nous allons parler de cet acte de barbarie, que j'ai pour ma part appelé un meurtre d'État, et je crois que là... Vous allez être attentif, naturellement, et vous poserez des questions si vous le souhaitez. Il y a tellement eu de désinformations, tellement eu de mensonges. J'en aborderai peut-être un au cours de cette émission, je ne le sais, mais tellement, tellement. Et face à ce mensonge, face à cet énorme tsunami de mensonges et de désinformations, se sont notamment dressés deux hommes, les deux avocats de Vincent, Jean Payot et Jérôme Triomphe. Jérôme Triomphe, notre frère de combat de tous les jours, avocat coordinateur de la GRIF, et il va de soi que dès le début de cette chose-là, alors que Jeanne déjà s'était dressée, la GRIF était derrière elle, parce que nous avions mis en avant, il y a déjà quelques années, la notion de racisme anti-humain que certains ne comprenaient pas facilement. Et pourtant, nous avons vu là le surgissement dans ce qu'on peut appeler le racisme anti-humain. Oui, la GRIF s'est créée contre le racisme anti-français. Elle s'est créée contre le racisme anti-chrétien. Mais nous avons vu surgir l'abomination de la haine de l'homme pour son humanité, finalement. Et cela faisait que nous étions naturellement derrière Jérôme Triomphe et Jean Payot, dans le combat qu'ils ont mené, je ne voudrais pas être hyperbolique, avec toute, toute leur abnégation, leur pugnacité, leur sens chrétien de l'homme et de Dieu. Et donc, Jérôme Triomphe, Jeanne, Guillaume, à vous la parole.
Merci Bernard. Vincent Lambert est mort. Et je dois vous dire que comme avocat, on ne sort pas indemne d'une telle épreuve. À ce moment-là, je suis très ému de vous parler à tous. Il y a 6 ans, il y a une femme qui s'est levée, une mère, avec un père, un frère, une sœur, pour s'opposer à l'abomination qui était en train de se dérouler sous leurs yeux. Leur fils et frère étaient en train d'être mis à mort par privation d'alimentation et d'hydratation. Une femme, Jeanne Smith, qui est là, tout de suite a rendu compte de cette abomination. En disant, vous voyez, c'est la stricte application de la loi Leonetti de 2005, qu'elle avait été une des rares à dénoncer avec Yves Daoudal et quelques autres, comme étant une loi d'euthanasie. Il y a 6 ans, il y a 6 ans, 2 mois et 5 jours, très exactement, que Viviane et Pierre Lambert m'ont saisi. Jamais je n'aurais imaginé que 6 ans et 2 mois plus tard, je serais aujourd'hui à vous parler et à vous dire que Vincent est mort. Quand en 2013, un médecin dénaturé, doublement dénaturé, à la fois dénaturé de sa fonction de médecin et de sa qualité de catholique, a décidé que Vincent devait mourir et que surtout ses parents ne devaient pas être informés, pas plus que ses frères et sœurs, parce que ils se seraient opposés. Nous n'imaginions pas que, une fois que un juge avait constaté l'illégalité de cette décision, que ce médecin ne le ferait pas transférer ailleurs, compte tenu de la perte de confiance qui est à la base de la relation, non seulement du médecin et de son patient, mais également de la relation d'un médecin avec toute une famille. Et pourtant, Vincent est resté. Vincent est resté dans ce service qui est devenu, au fil des années, un sinistre couloir de la mort. Et au fil des années, les médecins se sont succédés et se sont acharnés. Les juges se sont succédés, et à part la parenthèse de quelques juges courageux, de quelques juges rares, les décisions de justice se sont enchaînées. Et puis nous avons vu arriver cet épisode de la 4e procédure collégiale, lors de laquelle le ministre de la Justice, le ministre des Affaires étrangères, tout un gouvernement et le chef de l'État lui-même se sont engouffrés pour s'acharner jusqu'au bout à la mort d'un homme. Des médecins dénaturés, des juges dénaturés, nous sommes passés à un État dénaturé. Car la première fonction de l'État, c'est de protéger le faible. En tout cas, dans l'esprit chevaleresque qui n'existe plus évidemment dans notre pays, en application duquel le fort protège le faible. Les médecins, les juges, l'État se sont dénaturés, se sont déshonorés, et quelques-uns parmi eux ont sauvé l'honneur. Des médecins admirables qui nous ont accompagnés, qui se sont révoltés, dont certains, je pense au professeur Ducrot, ont brisé leur carrière pour Vincent et pour les plus vulnérables d'entre les nôtres. Des juges courageux qui ont brisé leur carrière également. Je pense aux 3, avant elle d'ailleurs. Il y a eu les juges du tribunal administratif de Châlons, pas les mêmes qu'aujourd'hui. Un jour je donnerai les noms. Et un jour je dirai à qui nous avons eu affaire. Mais ce n'est pas encore le moment. Mais il n'y a pas beaucoup de politiques qui ont sauvé l'honneur. Le 20 mai 2019, vous vous souvenez de cet extraordinaire arrêt de 3 juges qui ont sauvé la vie de Vincent, qui était en train d'être mis à mort une première fois. Ces juges-là ont brisé leur carrière. Ces juges-là n'iront jamais à la Cour de cassation, comme Madame Chantal Arens, qui vient de remplacer Monsieur Bertrand Louvel, qui était première présidente de la Cour d'appel de Paris. Mais ce n'est pas elle qui a jugé. Si Madame Chantal Arens avait jugé, et avait jugé dans le sens de ces 3 admirables juges, elle ne serait pas aujourd'hui première présidente de la Cour de cassation. Je vous avais quitté le 22 mai dernier, j'étais à cette antenne même, avec vous tous, avec cet arrêt de vie. Cet arrêt qui rappelle simplement que bien la vie est bien la valeur suprême, et que quand on prend des engagements, quels qu'ils soient, de droit privé ou de droit international, on doit les respecter. Et que la France, ayant pris l'engagement de respecter les droits issus de la Convention internationale pour les droits des personnes handicapées, de respecter les au cours individuel porter en application de cette convention, de respecter la compétence du comité des droits des personnes handicapées, de respecter les mesures provisoires, les mesures conservatoires qui avaient été édictées et qui l'ont été par trois fois par ce comité. Eh bien, au mépris de ses engagements, la France s'est acharnée à ce que Vincent meure. Et elle s'est acharnée d'une manière épouvantable. Et d'une manière qui doit aujourd'hui nous saisir tous d'effroi. De la même manière que doivent nous saisir d'effroi les jugements de ces juges qui jusque-là étaient des remparts contre l'arbitraire de quelque nature qu'il soit et d'abord étatique. Trois experts judiciaires avaient écrit noir sur blanc en page 24 de leur rapport d'expertise judiciaire du 18 novembre 2018 que Vincent n'était pas en situation d'obstination déraisonnable. Mais des juges, du haut de leur imperium et depuis leur sépulcre doré à leur fin, ont dit si Vincent Lambert est en situation d'obstination déraisonnable. Quel citoyen ne peut pas être épouvanté de se dire qu'un jour il sera à la merci de tels juges, qui ne tiennent même plus compte à la fois de la réalité médicale et de l'expertise de ceux-là même dont il demande l'avis autorisé. Ces trois juges de la cour d'appel avaient simplement rappelé le droit et avaient constaté qu'un homme était en train de mourir en violation des engagements de la France. Ces trois juges avaient vu la vidéo de Vincent. Et vous savez, cette vidéo de Vincent du 19 mai, au moment où il a appris qu'il allait mourir à partir du lendemain, cette vidéo me hante. Je ne vous cacherai pas mes sentiments aujourd'hui. On ne sort pas indemne d'une telle épreuve qui me marquera, évidemment, mais je suis hanté, je fais des cauchemars la nuit. Je me réveille en sursaut en attendant l'issue du dernier recours pour Vincent et je me réveille et Vincent est mort. Mais cette vidéo qui me hante, c'est celle de Vincent en train de pleurer en voyant ses parents. Parce qu'il sait que demain, il sera mis à mort. Bernard parlait tout à l'heure des mensonges. Ce n'est pas un qu'il faudrait dénoncer, c'est 10, c'est 20, c'est 100. Parce que ce mensonge, comme la haine, nous l'avons senti charnellement tout au long de ces années. Et plus encore ces derniers temps. Ces trois juges de la cour d'appel qui ont simplement dit une chose. Un homme est en train de mourir, nous venons de voir cette vidéo. Ils l'ont pas dit, mais c'était. Elles ne l'ont pas dit, mais c'était tellement évident. Nous constatons que Vincent Lambert, qu'on nous a présenté comme un légume branché à des machines, ne correspond pas du tout à ce qu'on nous dit et que manifestement il est animé de sentiments. Les idéologues ont parlé de cette vidéo. Le docteur Bernard de Valois, un des pires idéologues de l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation, qu'il qualifiait depuis 15 ans de technique de réanimation médicale, justifiant qu'on puisse l'arrêter. Le même idéologue qui a expliqué dans la presse qu'il avait refusé de voir la vidéo de Vincent en train de pleurer, tout en nous expliquant que ce n'était pas des pleurs. Ils n'ont plus peur de rien, ces gens-là. Mais ces juges l'ont vu. Et de manière tout à fait marquante, jamais aucun des juges à qui nous avons demandé de voir et de visionner des vidéos de Vincent n'a jamais accepté de les regarder. Jamais. Ils l'ont toujours refusé, et généralement par arrêt, justifiant qu'ils refusaient de faire droit à une demande. Pourtant, on ne peut plus légitime, encore dernièrement, le 28 juin, trois juges de la cour d'appel de Reims qui statuaient en matière de tutelle, et je vous dirai encore les derniers recours que nous avons faits, que personne ne sait. Ont refusé de voir cette vidéo, ont refusé de voir Vincent tel qu'il est, alors qu'ils étaient les juges de la tutelle, les juges de la protection des majeurs vulnérables, les juges de Vincent Lambert. Le 20 mai, au soir, Vincent est sauvé. Le docteur Sanchez, le gériatre de Sarreguemines, qui est devenu, par la grâce d'une nomination tout à fait curieuse, mais on ne va pas nous empêcher de faire du mauvais esprit en considérant que passer de gériatre à Sarreguemines, à chef d'un grand service de soins palliatifs dans un grand hôpital universitaire d'une grande ville de France est dû au hasard. Évidemment, le docteur Sanchez, on lui a demandé de remplir une mission et de terminer ce qui avait été si mal effectué, si mal commencé par le docteur Carrigère, puis par son successeur, le docteur Simon. Quand le docteur Sanchez, d'ailleurs je vais arrêter de l'appeler docteur, quand Sanchez est arrivé dans la chambre un peu après 22h30, c'est rapporté par une des sœurs qu'il a dit à l'AFP, il a dit « c'est cruel ». C'est cruel de redonner à boire à un homme. C'est cruel de redonner de l'alimentation à un homme. C'est cruel d'arrêter de le sédater pour altérer sa conscience, qu'il paraît qu'il n'aurait plus ou dont on doute qu'il puisse l'avoir. Même François Lambert ne sait pas. Et Vincent a été sauvé ce soir-là. On nous a conspués, traînés dans la boue, pour nos manifestations de joie, qui n'étaient que la manifestation d'une joie pure, pas une joie égoïste, pas une joie éphémère, comme on peut le voir dans certaines occasions, une joie pure d'avoir permis de sauver la vie d'un homme. Une joie dans laquelle nous communions avec ces centaines de personnes qui étaient avec nous et qui attendaient avec nous dans l'angoisse. Et de manière surréaliste, mais qui restera dans l'histoire. L'État s'est acharné contre Vincent et il a décidé de se pourvoir en cassation. Je rappelle que Mme Buzyn, dès le 5 mai dernier, avait dit que les mesures provisoires de l'ONU n'obligeaient pas la France. Le ministère des Affaires étrangères l'avait écrit au CDPH. Trois fois le CDPH l'a réclamé, trois fois ça a été refusé. Emmanuel Macron, à qui nous avions écrit, avec Jean Paillot, mon frère d'armes, a répondu sur Facebook. Signe des temps modernes. Un texte qu'il n'avait évidemment pas préparé, nous expliquant que, comme tous les Français, il avait été catastrophé quand Vincent avait eu son accident en 2008. Alors que ni Jeanne Smith, ni moi-même, ni personne ne connaissait évidemment l'accident de Vincent sur une petite route de Champagne. Et il avait expliqué qu'il ne pouvait rien faire. Mensonge, monsieur Macron. Car l'histoire retiendra, monsieur Macron, que vous étiez celui qui pouvait faire respecter les mesures provisoires en faisant respecter les engagements internationaux de la France et que vous ne l'aurez pas fait. Si Vincent est mort, c'est à cause de toute une chaîne de décisions ou de non-décisions qui ont été prises ou n'ont pas été prises. Mais ultimement, monsieur Macron, c'est vous qui en êtes responsable. Et le gouvernement a décidé de se pourvoir en cassation. Par le biais de l'État et des ministères concernés, ainsi que le CHU et le docteur Sanchez. Mais quel acharnement! Alors que, je le dis tout de suite, parce que tant et tant nous demandent, mais pourquoi n'a-t-il pas été transféré tout simplement? Parce que nous l'avons réclamé 9 fois en justice et que 9 fois cela nous a été refusé. Ils ne voulaient pas garder Vincent en vie, mais ils l'ont gardé à vue. Comme pour le garder à portée de décision. Cela a été efficace. Il est resté à leur merci, il en est mort. Le gouvernement a fait ce pourvoi en cassation et, pour la première fois dans notre histoire judiciaire, la Cour de cassation s'est réunie et a tranché. Le terme est parfaitement adapté. Il a tranché Vincent Lambert en 2, le 28 juin dernier. La Cour de cassation avait parfaitement la possibilité... parce que nous sommes sur une question technique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de dire, effectivement, nous ne sommes pas dans une voie de fait au sens de la jurisprudence, mais nous ne cassons pas cet arrêt de la Cour d'appel parce que dans les circonstances exceptionnelles qui étaient celles de ces juges qui étaient le dernier recours pour faire respecter des engagements internationaux, devant ces engagements internationaux qui obligeaient la France, la Cour de cassation pouvait simplement dire les mesures conservatoires prescrites par le CDPH, évidemment, juridiquement, doivent être respectées par la France. Elle pouvait parfaitement dire, la Cour d'appel n'avait pas compétence pour le dire, mais ces mesures provisoires doivent être respectées par la France. Elle aurait eu, cet arrêt de la Cour de cassation aurait été un grand arrêt, un de ces grands arrêts qu'on apprend dans les facultés et qu'on aurait appris pour les siècles à venir. Mais pas du tout. En 8 lignes, elle a dit, la Cour d'appel ne pouvait pas se prononcer. Et en 8 lignes, elle a condamné Vincent à mort. En réalité, elle n'a jamais dit que les mesures conservatoires n'obligeaient pas. Mais la Cour de cassation savait très bien qu'en rendant cet arrêt, elle donnait un feu vert au docteur Sanchez. La Cour de cassation s'est réunie en 1 mois et 8 jours. Elle ne s'est pas réunie, elle a tranché en 1 mois et 8 jours, ce qui ne se voit jamais, hormis dans les affaires de funérailles. Il y a une procédure express, une procédure qui oblige, dans le code de procédure civile, à statuer en 24 heures en première instance, 24 heures en appel, et la Cour de cassation peut se réunir effectivement en urgence quand il y a lieu. Mais ça ne se voit jamais dans les autres affaires. Et en l'espèce, quelle était l'urgence qu'il y avait à statuer aussi rapidement, alors qu'il n'y avait plus d'urgence, puisque Vincent avait été sauvé par la Cour d'appel? La seule urgence qu'il y avait, il y en avait deux. C'est au choix. Soit une urgence à ne pas laisser cet arrêt de vie perdurer plus longtemps, soit une urgence pour son premier président à poser son nom sur cet arrêt avant de partir à la retraite 2 jours plus tard. Et c'est ce qui s'est passé. Le premier président Bertrand Louvel est celui qui a décidé de juger cette affaire en urgence et qui a posé son nom sur cet arrêt le 28 juin. Avant de prendre sa retraite le 30 juin et de passer les rênes à Madame Chantal Arens comme première présidente de la Cour de cassation. Chaque auditeur tirera les conséquences et les leçons de cette information.
Jean Smith.
Vincent, nous avons cet arrêt qui tombe le 28 juin. Le 1er juillet, nous sommes avec Jean Payot, avec Grégoire Pupinck, dont nous ne dirons jamais assez l'excellence, le talent, les qualités, qui est directeur de l'ECLJ, le Centre Européen pour le Droit et la Justice, l'acronyme est anglais, à Strasbourg, qui se bat pour le droit naturel, pour notre civilisation, pour les droits des personnes humaines, devant l'ONU, devant la CEDH. Nous étions avec Grégoire Pupinck, avec Jean Payot, mon frère d'armes, avec Viviane Lambert, et nous sommes allés à l'ONU pour dénoncer la forfaiture et le parjure de la France devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Une petite anecdote, Viviane a parlé, son temps de parole imparti, et alors que généralement les différentes personnes qui s'expriment sont entendus d'une oreille distraite, nous avons vu les différentes délégations des différents pays se tourner vers elle. C'était la seule fois que nous avons vu les personnes se retourner, les différents diplomates se retourner pour voir qui était cette mère courage qui se battait pour la vie de son fils. Et en sortant de l'ONU, nous avons appris que le CHU avait fait signifier par huissier de justice l'arrêt de la Cour de cassation à toutes les parties. Et nous avons su à cet instant qu'il nous fallait rentrer très vite à Paris parce qu'il n'attendrait pas et qu'il ne respecterait pas les mesures conservatoires édictées par le CDPH qui ont été réitérées dès le 2 juillet. Et le 2 juillet, le docteur Sanchez a annoncé qu'il recommençait son processus de mort. Depuis le 10 mai dernier, avec mon frère d'armes Jean Payot, nous avons travaillé jour et nuit pour Vincent, jusqu'à cet arrêt du 20 mai. Et nous avons dû continuer et recommencer. Et nous avons engagé de nouveaux recours pour faire respecter ce que le défenseur des droits, Jacques Toubon, avait rappelé, les mesures conservatoires obligent la France. Ce que 3 juges admirables de la Cour d'appel avaient rappelé dans ce qui est un arrêt qui a été cassé, qui n'existe plus, mais procéduralement, mais qui existe toujours comme avis juridique, comme consultation juridique. Nous, trois hauts magistrats de la Cour d'appel, constatons que ces mesures provisoires obligent. Mais c'en était trop. Il fallait faire vite. Et Vincent Lambert avait vécu certainement trop longtemps. Et nous avions certainement trop longtemps empêché de tuer en rond. Et dès le 2 juillet, il a été annoncé le placement sous sédation terminale de Vincent. Et l'arrêt de son alimentation et de son hydratation. En réalité, Vincent ne sera jamais placé sous sédation profonde. Et Vincent ne sera déshydraté qu'à partir du jeudi suivant, 2 jours plus tard, le 4 juillet. C'est ce que a expliqué le docteur Sanchez, mais moi je ne crois pas un traître mot de ce que dit le docteur Sanchez, quand je sais qu'il a été capable de tromper toute une famille en prétendant qu'il commencerait la première fois au cours de la semaine du 20 mai, qu'en réalité c'était dès le 20 mai au petit matin qu'il l'avait fait dès le lundi 20 mai. Et Vincent a commencé à déshydrater le 4 juillet et nous avons multiplié les recours. Nous avons saisi, c'est une information que je vous donne, le tribunal administratif de Paris, une nouvelle fois, qui nous avait déjà débouté au tri préalable le 15 mai. Nous avions saisi le Conseil d'État dans la foulée, mais le Conseil d'État avait fixé notre affaire à une audience dite de non-admission, malgré l'importance juridique et humaine de cette affaire. Audience de non-admission, nous n'admettons pas votre recours. Le tribunal administratif de Paris a attendu, nous savions qu'il ne nous donnerait pas raison et que c'était terminé. Et nous avons saisi le tribunal administratif de Châlons, une nouvelle fois, car il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre. Et nous nous disions que des juges qui avaient condamné Vincent à mort auraient peut-être voulu se racheter. Et le tribunal administratif de Châlons nous a rendu une décision 24 heures plus tard, rendue non pas par le président Jean-Paul Viss, mais par son vice-président Antoine Durup de Baleine, à qui le président Viss avait confié le dossier, et qui a rendu une décision disant que les mesures conservatoires n'obligeaient pas la France, en visant 3 décisions qui ne disaient absolument pas cela, en ne répondant à aucun des arguments de droit international que nous lui avions soumis. Nous avons porté une plainte pour tentative de meurtre sur personne vulnérable, qui fait encourir la perpétuité à celui qui la commet, contre le docteur Sanchez. D'abord pour celle du 20 mai dernier, puisque je rappelle quand même que le 20 mai, il avait commencé à tuer Vincent Lambert, et que c'est par un événement indépendant de sa volonté qu'il était obligé de lui redonner de l'eau et de l'alimentation. Et il faudra qu'on nous dise qu'il n'y avait pas de tentative de meurtre, alors que c'est un arrêt de la Cour d'appel qui lui a donné tort. L'arrêt de la Cour de cassation n'a pas validé rétroactivement la tentative de meurtre. Et nous avons évidemment porté plainte pour la tentative de meurtre qui était en train de se commettre, et nous avons appelé cette plainte « Demande d'assistance à personne en péril ». Nous l'avons adressée au procureur de la République, M. Mathieu Bourrette, et au procureur général, M. Jean-François Bonnert, de Reims. Et avec Jean Payot, nous sommes allés, alors que Vincent était en train de mourir, à Reims, vendredi 5 juillet. Le procureur de la République a annulé tous ses rendez-vous pour nous recevoir. Ce n'est un secret pour personne, puisqu'il l'a lui-même indiqué lors d'une conférence de presse. Pendant 1h30, nous avons plaidé comme des avocats peuvent plaider la grâce auprès d'un président. L'ultime grâce qu'on plaide pour essayer d'arracher la vie à celui dont la vie nous a été confiée et auquel on s'est attaché. Le procureur nous a dit qu'il étudierait tout ça et qu'il verrait ce qu'il ferait ou ne ferait pas. Nous sommes allés immédiatement voir le procureur général, qui, toutes ses affaires cessantes, nous a reçus. Je dois le dire avec beaucoup d'humanité, mais une efficacité tout à fait limitée. Ils avaient le pouvoir, l'un et l'autre, de constater que une tentative de meurtre, ce qu'on leur demandait, était en train d'être commise dans leur ressort, en violation du droit à un recours effectif rappelé par le défenseur des droits, dont je rappelle que le défenseur des droits, autorité constitutionnelle, a été spécialement chargé en France de veiller à l'application de la Convention pour les droits des personnes handicapées. Et on nous a opposé, oui, mais l'arrêt de la Cour de cassation. Il s'impose à l'ordre judiciaire, nous faisons partie de l'ordre judiciaire. C'est faux, leur a-t-on répondu, puisque cet arrêt de la Cour de cassation interdit simplement à des juges du fond, à des juges du siège, de juger d'une voie de fait dans une telle circonstance. Mais nous ne vous demandons pas de juger d'une voie de fait, nous vous demandons de juger de la réunion des éléments constitutifs d'un crime qui est en train de se commettre et que vous pouvez empêcher en portant assistance à une personne en péril, en faisant transférer immédiatement Vincent, par exemple, au rez-de-chaussée de ce CHU pour qu'on leur donne à manger et à boire et qu'on puisse préserver, bien empêcher simplement, comme tout citoyen doit pouvoir empêcher d'ailleurs une tentative de meurtre qui est en train de se commettre. Et le résultat est que, eh bien, il ne se passera rien. Et nous leur avons dit, attention, demain samedi 6 juillet, si vous n'avez rien fait, si vous n'avez pas pu sauver Vincent, eh bien, il sera trop tard parce que ses lésions rénales seront irréversibles. Et pour le coup, si Vincent devait être réhydraté, mais au prix d'une dialyse, là, pour le coup, ça serait de l'acharnement thérapeutique. Et il ne s'est rien passé. Nous avons attendu toute la journée du 6 juillet. Certains nous disent, mais pourquoi avez-vous abandonné le combat ? Chers auditeurs, nous n'avons pas abandonné le combat. Nous n'avions plus de flèches dans notre carquois, nous n'avions plus de pierres à utiliser avec nos frondes. Nous avions épuisé l'ensemble des recours que nous avions faits. Et même les dernières démarches que nous avons faites, eh bien, étaient des démarches qui n'existent pas en réalité dans le code de... dans les différents codes de justice, mais qui existent dans le cœur d'un homme bien-né, je crois. Et jusqu'au bout, nous avons essayé de sauver la vie de Vincent, et nous n'y sommes pas parvenus. Et malheureusement, le samedi s'est déroulé, nous avons appris par la presse qu'une enquête préliminaire pour tentative de meurtre en bande organisée aurait été ouverte, mais ça c'est encore les fausses nouvelles des journalistes, puisque le procureur a dit pas du tout. Il s'est récrié 6 jours plus tard en disant « plus du tout, j'ai jamais ouvert une telle enquête ». Et quand Vincent est mort, eh bien, le procureur a décidé d'ouvrir une enquête pour recherche des causes de la mort. Et il a décidé d'une autopsie. C'est nous qui avons écrit au procureur et au procureur général en le suppliant, en le conjurant, ce sont les mots que j'ai employés, « Monsieur le procureur, je vous conjure de ne pas rajouter... » une violence supplémentaire à ce drame, parce que l'autopsie ne sert à rien. Nous savons très bien de quoi est mort Vincent. Vincent est mort des conséquences d'une déshydratation et de décisions judiciaires et politiques qui ont été prises contre lui. Donc, on sait de quoi il est mort, mais voilà, les fonctionnaires, comme ils sont, quand il faut ouvrir des parapluies, car ce n'est rien d'autre qu'un parapluie qui a été ouvert pour pouvoir dire... j'ai fait ce qu'il fallait au cas où nous déposerions de nouvelles plaintes et qu'il faudrait vérifier de quoi est mort Vincent. Mais vous pensez bien d'ailleurs que si Vincent était mort d'autre chose que des conséquences d'une déshydratation, ça aurait été quoi ? Ça aurait été qu'on pousse un peu trop sur la seringue d'Hypnovel ? Mais en réalité, moralement, quelle est la différence entre pousser sur la seringue d'Hypnovel pour rater son décès ou le faire crever de soif comme un chien ? Ben je pense qu'il y a un geste qui est plus moral que l'autre, c'est au moins de ne pas le faire souffrir. Et quand je dis de le faire crever comme un chien, c'est très désobligeant pour notre corpus législatif, parce que celui qui ferait crever son chien comme ils ont fait crever Vincent se retrouverait devant un tribunal correctionnel et serait emprisonné sous les ourvaries de la foule. Il serait lynché en place publique et en place de Facebook et de Twitter réunis, et il partira en détention provisoire ou sous mandat de dépôt immédiatement. Mais ça, on a le droit de le faire pour un être humain. Parce que Vincent est mort dans d'atroces souffrances. La loi Léonetti-Claes, qui est une loi barbare, a été faite par une bande d'hypocrites, qui ont décidé, comme ça a déjà été décidé avant la loi de 2016, qu'on pouvait arrêter l'alimentation et l'hydratation d'un être humain dans le but de provoquer sa mort. Mais comme ils savent que la déshydratation, notamment, est cause de souffrances abominables, Je fais une parenthèse, vous irez voir sur le blog de Jeanne Smith l'histoire qu'elle raconte de Kate Adamson. Cette femme qui a été privée d'hydratation et qui raconte la souffrance abominable que c'est. Eh bien, ils ont prévu la sédation profonde et continue jusqu'au décès, qui est une sédation qui doit entraîner les mêmes conséquences qu'un coma artificiel ou une anesthésie générale. Sauf que Vincent, jusqu'au bout, il est resté les yeux ouverts. En tout cas, il ouvrait les yeux. Vincent gémissait. Vincent râlait. Vincent suffoquait. Vers la fin, il était plus paisible. Mais auprès de ses proches, eh bien, il ouvrait parfois les yeux. Parce que le docteur Sanchez a refusé d'appliquer la loi en lui donnant une sédation profonde. Il fallait que ça dure. Peut-être que M. Romero est très content, lui, que ça ait duré pour pouvoir justifier que maintenant il faut pousser sur la seringue. Mais le docteur Sanchez ne voulait surtout pas qu'on puisse lui reprocher d'avoir poussé sur la seringue, ce qui prouve que c'est bien un robot qui a été mis là à cette place parce qu'on savait qu'il exécuterait la mission qu'il avait été imparti avec l'efficacité qui a été la sienne. Mais comme un robot, il n'a pas beaucoup de réflexion, il n'a pas compris qu'on le poursuivrait pour justement avoir fait souffrir Vincent. Et Vincent est mort dans ces circonstances terribles. Dieu merci, il n'est pas mort entre les bras du maître d'œuvre abominable de toute cette affaire, François Lambert, qui est passé... François Lambert et son demi-neveu. Non pas son neveu, mais son demi-neveu. Il est le petit-fils de Pierre, il est le fils de Marie-Geneviève, qui elle-même n'a pas la même mère que Vincent. Songez, chers auditeurs, qu'un jour vous serez peut-être à la merci d'un cousin au 38e degré qui décidera et qui se battra devant les tribunaux qui lui donneront raison peut-être contre l'ensemble de votre famille et des proches qui vous aiment. Et Vincent est décédé le 11 juillet. Le jour où une ordination sacerdotale d'un nouveau prêtre était faite pour la Sainte Église. Un jour, je dirai tout ça. Fils d'un des juges qui ont permis que Vincent meure. Mais il est mort aussi le jour de la Saint-Benoît. Et je n'en dirai pas plus, mais ça a été une grande consolation pour les membres de la famille qui sont très attachés à Saint-Benoît. La veille, nous nous étions réunis. Cécile Montmirail était là. Au premier rang, pour une veillée d'une dignité absolue, une dignité de prière, de recueillement, de colère contenue également, et de beaucoup de chagrin. Vincent est mort quelques heures plus tard. Je sais que nous avons pu l'accompagner ultimement par l'intermédiaire de toutes ces âmes généreuses qui étaient autour de lui ce soir-là. Rien n'aura été épargné à cette famille. L'autopsie, le silence... puisqu'il ne savait rien des obsèques. C'est vendredi à 20h12 que par un SMS d'une des sœurs, ils apprendront que Vincent sera enterré le lendemain à Longwy. On a refusé une longue vie à Vincent, mais il aura été enterré à Longwy. C'est comme ça que ça s'écrit en tout cas. C'est là qu'habitent les parents de Rachel.
Alors, un auditeur, Jérôme Triomphe, pardon, demandait pourquoi vous ne parliez pas de la famille qui a demandé la mort de Vincent. Vous en parlez, donc son ex-femme, son demi-neveu, pourquoi l'ont-ils demandé? Je crois qu'il faut répondre à cette question.
Pourquoi ont-ils demandé
la mort de Vincent?
Pourquoi ont-ils demandé la mort de Vincent? Parce qu'un jour, un médecin dénaturé leur a mis en tête que quand on ne pouvait plus soigner, il fallait tuer. Plutôt, quand on ne pouvait plus guérir, il fallait tuer. La distinction entre le tout care et le tout cure, le guérir et le soigner, prendre soin toujours jusqu'au bout. Vincent n'évoluera pas. Bah, évidemment, déjà, il était dans le mauvais service. Il ne savait pas s'en occuper. La kinésithérapie n'améliore pas son état neurologique, avait écrit le docteur Cariger. La kinésithérapie n'améliore pas son état neurologique. Hein. Il faut bien quand même que vous l'écoutiez, ça. Et donc, plutôt que de se dire il y a des structures qui seraient peut-être plus à même de le prendre, eh bien, on va appliquer la loi Leonetti et puis arrêter son alimentation et son hydratation. Et pourquoi ? Parce qu'on a posé à un moment un jugement sur le sens et la valeur de sa vie, tout simplement. Docteur Cariger l'a écrit depuis 2013, et il a encore écrit, toute honte bue, le jour du décès de Vincent. Vincent, pour lui, vivre, c'était sentir l'odeur du vent dans les sapins, de voir la mer, de courir, de marcher... Et c'était être en relation. Ah bon ? Donc la vie, en fait, est une notion purement subjective. Voilà la raison pour laquelle il a été tué. Tout simplement parce que des bien portants ont projeté sur lui leurs angoisses de bien portants et qu'on a posé un jugement sur le sens de sa vie. Pour revenir aux obsèques, à 20h12, le vendredi, la famille apprend par un SMS d'une sœur, après que nous avons essayé d'avoir des informations... de faire les intermédiaires pour éviter que Rachel Lambert parle à ses parents ou à David et Anne. Eh bien, 20h12 pour un enterrement à 200 km de là, à Longwy, le lendemain matin à 10h. Ils y sont allés. Il y avait deux clans. Eux d'un côté, les autres de l'autre. Ils n'ont pas pu embrasser Clémence, la fille de Vincent, 11 ans, qui était protégée par son grand-père, le père de Rachel. Un frère ou deux est venu embrasser Viviane et Pierre, et c'est à peu près tout. Une cérémonie comme on sait en organiser dans nos petites églises de province, avec un prêtre quasiment taisant et une laïque qui parle, des poèmes et des chansons, et bien peu d'espérance. Nous les avons rejoints. Évidemment, nous n'allions pas aller à la cérémonie d'obsèques et risquer de créer quelques tensions que ce soit. Nous les avons rejoints devant cette église Saint-Dagobert, très belle église, sur la place principale de Longwy, avec Jean Payot, avec notre médecin Catherine Kiefer, et avec le professeur Xavier Ducrot, notre autre médecin conseil. Nous étions les seuls à avoir pu nous libérer en urgence. Cette rencontre avec nos amis, cette famille, sur cette place de Longwy, devant cette église Saint-Dagobert, ce sont des moments qui n'appartiennent qu'à nous. Vous imaginez quel moment intense ils ont été. Nous sommes allés à l'église Saint-Dagobert et nous avons prié pour Vincent. Nous avons essayé de donner un peu de foi et d'espérance et de la charité. Nous avons prié aussi pour ses persécuteurs. Et... nous sommes allés au cimetière et sur cette dalle de béton encore provisoire, ils avaient été informés, je le rappelle, la veille à 20h12. Elle était couverte de fleurs blanches, de couronnes, de plaques funéraires, à mon époux, à mon papa, à toi. Mais eux, ils ont été interdits de le faire, empêchés. Voilà, tout ce que je peux vous dire sur ces moments. On n'en ressort pas indemne. Mais nous savons que la petite graine de CNV est minuscule, mais que ses fruits sont abondants et qu'il en ressort ce qu'on ne peut pas imaginer. Je crois que la mort de Vincent, qui est mort, je crois, en martyr de la loi naturelle, persécuté, torturé, dont, et quand je dis torturé, c'est un terme fort que j'emploie à dessein, parce que quand on laisse un homme pendant des années sur un lit d'hôpital, sans lui donner de fauteuil adapté, sans le sortir, pour goûter les senteurs de l'herbe fraîche coupée au printemps, le dehors, pour sentir le vent sur son visage, c'est ça que dit le docteur Carrigère. C'était ça pour lui vivre, ah bon ? Mais pourquoi vous l'avez empêché de le faire ? Eh bien, je crois que la mort de Vincent portera de grands fruits, parce que des gens se sont réveillés, des gens se réveilleront. Le premier d'entre eux aura été Michel Houellebecq, qu'on n'attendait pas dans ce registre. Et puis il restera cette marque indélébile dans notre histoire de France, d'un crime d'État qui aura été commis au prix d'un mensonge d'État. Ce crime d'État est impardonnable. Mais nous, ce que nous souhaitons, c'est le pardon pour tous ceux qui individuellement auront commis cette forfaiture, à commencer par ceux que le bon Dieu avait placés sur le chemin de Vincent Lambert.
Merci Jérôme. Jeanne Smith.
J'ai envie de vous raconter que tout à l'heure, j'ai parlé avec Viviane Lambert, qui est admirable, qui bien sûr que je n'ai pas demandé de s'exprimer sur ses derniers jours auprès de Vincent, mais qui l'a fait, et qui m'a dit toute son incompréhension. Mais quelle urgence y avait-il à le tuer ? Répétait-elle. Et elle parlait du corps de Vincent qui souffrait, de son âme qui, aujourd'hui, elle a confiance de la savoir près du bon Dieu, et c'est peut-être ça la très bonne nouvelle qui clôt cette histoire abominable et criminelle. Je crois qu'il faut dire que, en se battant pendant 6 ans pour sa vie, Jérôme Triomphe, Jean Payot et puis tant d'autres, des médecins admirables, comme vous l'avez dit, Jérôme, vous avez gagné 6 ans de vie pour Vincent. Et je crois que c'est ça qu'il faut regarder aujourd'hui. De toute façon, cela a permis de réveiller, non pas la France, nous l'avons vu, non pas l'État français, mais ça a permis de réveiller beaucoup de gens qui se sont rendus compte qu'en France, aujourd'hui, la mort est une solution. La mort est une solution finale à tous les pires maux, les pires ennuis, les pires emmerdes, j'aurais envie de dire, excusez-moi. Mais c'est bien ça. Quand en 1975, la loi autorise l'avortement, au nom d'une tyrannie bienveillante, l'État va donner aux femmes les moyens de ne pas souffrir parce qu'elles sont enceintes, de ne pas souffrir parce qu'elles ont été violées, etc. Il va leur donner ce moyen qui est de tuer l'enfant qu'elles portent. Bien sûr, ça n'est pas du tout un moyen qui va les empêcher de souffrir, bien au contraire, parce que ce sont ces femmes qui aujourd'hui portent par centaines de milliers, même par millions, la conscience d'avoir tué l'être qu'elles étaient appelées à aimer le plus au monde, leur enfant. Il y a eu l'avortement. Ça a été la porte ouverte. Ça a été la première manifestation de cette idée que la mort est une solution quand il y a, entre guillemets, trop de souffrance. Mais combien de souffrances vont suivre ? Et lorsque Vincent Humbert, vous vous souvenez de Vincent Humbert, souffre de dépression à la suite d'un accident qui l'a laissé tétraplégique, sinon cérébro-lésé au point où l'était Vincent Lambert. Vincent Humbert, on va se battre pour qu'il puisse mourir.
Il n'était pas cérébro-lésé.
Il n'était pas cérébro-lésé.
Il était conscient.
Il était tout à fait conscient, mais dépressif.
Et aveugle.
Et aveugle. Et on ne va pas le soigner, on va le pousser vers la mort. sa mère sera relaxée dans cette affaire et on créera la loi Leonetti pour justement permettre à des gens qui ne sont pas morts, mais gravement atteints, notamment par un handicap physique ou par un handicap cérébral, on va ouvrir la possibilité de les faire mourir en les privant d'alimentation et d'hydratation parce que c'est lent. C'est juste une question de tempo. L'euthanasie, c'est rapide ou l'euthanasie, c'est lent, mais c'est toujours une euthanasie. C'est pousser quelqu'un vers la mort qui n'est pas en fin de vie. Donc, loi Leonetti en 2005, même logique exactement que la loi sur l'avortement. Il y a des souffrances, il faut les soulager. Qu'est-ce qui va les soulager mieux que la mort? Eh bien, effectivement, cette logique va s'imposer de plus en plus. Pensez aux petits myopathes qu'on nous montre à la télévision. Au moment du Téléthon, regardez, ils souffrent. Il faut les sauver, il faut les sauver. C'est très joli tout ça. Mais que fait-on de l'argent du Téléthon? On finance des études qui permettront d'éliminer ces enfants avant leur implantation ou avant leur naissance. Diagnostic préimplantatoire ou diagnostic prénatal. Toujours la même solution, apparemment bienveillante, tyrannie bienveillante. Il faut tuer pour empêcher de souffrir. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, une petite fille de 5 ans, à Londres, comment s'appelle-t-elle déjà? Elle s'appelle Tafida Raqib. Je pense qu'elle est d'origine pakistanaise. Jolie petite fille aimant la vie. Elle a eu un problème cérébral grave. Elle est à l'hôpital. Elle est sous assistance respiratoire. Ses parents la voient évoluer. Ses parents voient qu'elle fait des petits progrès. Mais les médecins, et peut-être les juges à l'heure où je vous parle, ont décidé qu'il valait mieux pour elle mourir. Il était dans son intérêt de mourir. C'est exactement ce qui est arrivé à Vincent. Et je crois que Vincent est devenu une affaire nationale, l'affaire Vincent Lambert, parce que ses parents ne l'ont pas accepté. Mais je ne crois pas qu'il n'y ait jamais, aujourd'hui, en France, de patients qu'on ne traite ainsi. Bien au contraire, cela se fait. C'est une habitude, parce que dans la population s'est installée l'idée qu'il peut être dans l'intérêt d'un malade, ou d'un vieux, ou d'un enfant cérébro-lésé, même en état de conscience minimale, comme cette petite fille Tafida Raqib dont je vous parlais un instant, c'est dans leur intérêt de mourir. La mort, c'est mieux que la vie. Voilà ce qu'on est en train de nous dire. Et cette tyrannie bienveillante, elle cache quelque chose de bien plus horrible, qui est exactement ce que disait Jean-Paul II. C'est la culture de mort, c'est rechercher la mort pour elle-même, c'est rechercher la mort comme solution. On souffre? Eh bien, on va tuer. Il y a de la vie.
On tue même quand on ne souffre pas.
On ne souffre pas, mais on est un poids pour la société. Ou pour ses semblables, vous avez raison, Cécile Montmirail, on tue. C'est la culture de mort recherchée, de la mort recherchée pour elle-même, la mort cultivée. Il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas parler de culture de mort parce que la mort ne vit pas. Mais ici, on cherche à faire fructifier la mort. Et c'est là qu'on voit toute l'infernale inversion de cette fausse solution de mort qui aujourd'hui est présentée comme un bien. Et que tant de gens considèrent même comme un bien. Et je crois que c'est pour ça qu'il fallait que Vincent meure, parce qu'il fallait qu'il vienne apporter la preuve. Oui, la mort, c'est mieux que la vie. Et lorsque Jérôme Triomphe, Jean Paillot et quelques autres se battent pour sa survie, qu'ils lui gagnent 6 ans de vie, 6 précieuses années de vie, ils agissent comme des sonneurs d'alerte. Ils agissent pour dire non, la vie humaine, pour fragile qu'elle soit, pour abîmée qu'elle soit, elle peut partir du jour au lendemain, elle peut disparaître de ce corps pour X raisons. Souvenez-vous que Vincent Lambert, peu avant sa première procédure de mise à mort, peu avant le protocole de fin de vie, il est atteint d'une grave infection urinaire. Savez-vous ce qu'il s'est passé ?
C'était avant le 20 mai.
C'était avant le 20 mai. Il est expédié aux urgences. On le bombarde d'antibiotiques. Il faut qu'il vive pour qu'il puisse mourir dans les conditions de la loi Leonetti. C'est quand même totalement abominable.
Et c'est David qui est avec lui aux urgences, puisque Rachel est en Belgique, qui l'accompagne aux urgences et qui me dit, s'il fait un arrêt cardiaque, parce qu'il me dit, Vincent est très très mal, et je lui dis, si tu, laisse-toi aller, laisse-toi partir si tu veux partir. Hein. Et il est tellement mal qu'il pense qu'il va faire un arrêt cardiaque. Et il dit, s'il fait un arrêt cardiaque, c'est moi qui vais leur dire de ne pas le réanimer. Mais ils sont capables de le réanimer pour pouvoir le tuer léonétiquement.
Exactement. J'ai eu donc Viviane tout à l'heure qui m'a dit, mais vous savez, Jeanne, s'il était mort d'un arrêt cardiaque ou de quelque chose qu'il aurait emporté comme ça, naturellement, oui, nous en aurions souffert. Je ne dis pas exactement ces paroles, bien sûr. Je vous dis la substance de ce qu'elle m'a dit. Oui, nous aurions souffert. Oui, nous aurions été tristes. Mais nous ne serions pas révoltés. Là, on le fait mourir. Et c'est cela qui est révoltant. Je peux vous dire que j'ai discuté avec des amis de l'Académie Jean-Paul II pour la vie qui remplace avantageusement l'Académie Pontificale pour la vie qui aujourd'hui est occupée par est présidée par un nommé Monseigneur Paglia qui a fait sur l'affaire Lambert une tribune absolument infecte que j'ai traduite sur mon blog parce que ça m'a écœurée. Disant qu'il faut en tout cas éviter de s'obstiner pour maintenir en vie une simple vie biologique, traduisez vie végétative. Eh bien, il y a des penseurs, des savants chrétiens, catholiques, qui ne gobent pas cela et qui disent que l'âme et le corps humain font un tout. On ne s'attaque pas impunément à un être humain pour le faire mourir, cela s'appelle un meurtre. Vincent Lambert, ça a duré 9 jours. Et donc nous vivons dans une espèce de mensonge, un mensonge entretenu, où on nous dit qu'il faut que les gens faibles, que les gens souffrants, ou ne souffrant pas, mais qui sont un poids, soit éliminé. Alors on a trouvé un moyen qui est un peu une entourloupe médicale parce que il n'y a pas de seringue qui est poussée, mais il y a simplement quelqu'un que l'on regarde mourir. Vous imaginez d'être au chevet de votre fils ou de votre frère à qui vous ne pouvez pas donner d'eau alors qu'il est en train de mourir de soif. Je peux vous donner un exemple néerlandais. Une jeune fille, Noah Pothoven, suicidaire, qui a été violée à plusieurs reprises au début de son adolescence, en est devenue anorexique, qui a été nourrie de force pendant pas mal de temps, qui a crié au secours, qui n'a jamais même obtenu une place dans un centre comme elle le demandait pour guérir. Elle souhaitait guérir, elle a fini par demander à mourir. En Hollande, dès que vous avez 65 ans, vous pouvez demander à mourir de faim et de soif. Autonomie du patient. Les médecins sont obligés de vous accompagner. Alors j'ai lu bien sûr les directives pour les médecins qui accompagnent un patient qui décide de mourir ainsi. Et il est notamment expliqué que au bout d'un moment, bien sûr, on va garder la conscience aussi longtemps que possible pour que les proches puissent entourer cette personne qui a décidé de partir. Mais il y a un moment, bien sûr, où la soif prend le dessus et où cette personne va crier de soif et implorer qu'on lui donne à boire. Et bien, à ce moment-là, expliquent les directives, il y a deux choses à faire. La première, c'est d'avoir bien prévu des directives anticipées où cette personne dit qu'il ne faudra en aucun cas lui donner à boire, même si elle réclame. C'est noir sur blanc. Donc ils disent, oui, il faut quand même entourer la famille à ce moment-là, parce que c'est assez dur à vivre. Et puis à ce moment-là, on peut envisager effectivement une sédation profonde, parce que effectivement, ça évite à la personne de peut-être pas de ressentir, parce que qu'est-ce que la conscience humaine, mais en tout cas, de manifester son inconfort. On est devant cette fausse idée de l'autonomie du patient, et cette vraie idée de ce que vous avez développé, Bernard Anthony, l'idée du racisme anti-humain. Il y a une profonde haine de la vie, une profonde haine de l'homme qui est à l'œuvre dans ces histoires. Elle est à l'œuvre dans la loi sur l'avortement. Elle est à l'œuvre dans la loi Leonetti. elle est à l'œuvre encore davantage, parce que la loi Leonetti-Claeys de 2016 l'a aggravée. Donc dans cette loi de fin de vie qui permet de stopper les soins ordinaires, moi je ne regrette qu'une chose, c'est qu'on ne soit pas beaucoup plus honnête et qu'on ne dise pas, écoutez, les personnes qui sont dans l'état de Vincent Lambert, personne n'aimerait vivre comme ça. Moi, je réponds, moi, je ne voudrais pas mourir comme on l'a fait mourir. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on ne les mettrait pas plus simplement dans un congélo? C'est plus rapide. C'est une absence de soins, c'est une absence de couverture. La couverture, le toit, la chaleur, les vêtements, ce sont les soins dus aux malades, toujours, quels qu'ils soient, et aux condamnés à mort, quels qu'ils soient. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on ne les mettrait pas tout simplement dans un frigo? Ça irait plus vite et ce serait moins hypocrite. Ce serait aussi une abstention de soins. Voilà.
Il y a quelques questions, je crois qu'il faut les prendre. Alors, il y a des questions pour me demander l'appartenance ou non à des loges de certains que nous avons cités. Alors, je vais dire ceci. Nul plus que moi, je pense, n'a dénoncé l'action néfaste de la franc-maçonnerie, ou en tout cas des principales grandes obédiences. Mais, hélas, dans la chaîne de meurtre d'État, eh bien, il y a des catholiques.
Qui vont à la messe tous les dimanches,
chers auditeurs. Qui vont à la messe tous les dimanches. Il y a des traditionalistes, il y a des aristocrates. Voilà, ça il faut le dire aussi.
Et oui.
Parce que la vérité est la vérité.
Et oui.
Mais Jeanne. Si vous me permettez, Bernard, oui. Je voudrais ajouter à propos de Jean Leonetti. J'ai assisté près de Reims, dans une petite ville de province, tout près de Reims, un petit village, salle de sport convertie en salle de conférence. Leonetti venait donner une conférence avec un parlementaire RPR sur la fin de vie et il exposait sa loi, et il parlait de Saint Thomas d'Aquin, et il parlait. C'était tout à fait passionnant. Et ce n'est qu'à la fin qu'il a exposé sa loi sur la fin de vie en disant que dans certains cas, il fallait bien sûr s'abstenir des traitements. Et devant cet auditoire de notables du coin, il y avait les chirurgiens, les médecins, les dentistes. Le gratin d'une toute petite ville de province, je vois Leonetti, c'est gravé dans mes yeux. Je vois Leonetti lever ses trois premiers doigts en l'air en forme de triangle et dire « Je vais vous démontrer cela en trois points, chers amis !» Et il brandit son doigt et après, sur son petit pupitre, il pose ses doigts trois fois en forme de triangle, trois points. J'ai trouvé que c'était tellement énorme que je me suis dit « Non, là tu rêves, Jeanne, non, c'est pas possible qu'un franc-maçon se délivre comme ça, c'est ridicule !» Et j'en ai parlé à Serge Abad Gallardo, que nous connaissons tous, comme ancien franc-maçon. Je lui ai demandé, dites, c'est vraisemblable cette histoire-là, qu'est-ce qu'il cherchait à dire, le brave Jean Leonetti? Et il a ri, il a dit, oui, bien sûr, ça se fait.
Mais ça si se vous fait. Permettez, Jeanne, rien ne nous étonne de la part des ennemis.
Oui.
Alors, sur cela, vous comprenez, bien sûr, on sait par exemple, nous l'avons dit ici suffisamment, le rôle du docteur Simon, grand maître de la grande loge, pour la vérité aussi. Il y a eu des francs-maçons pour s'opposer à l'avortement.
Bien sûr.
Dieu merci, il y a eu une revue comme Valeurs Actuelles qui a été créée par le franc-maçon Bourgine, mais Bourgine n'était pas pour la loi Veil. Bon, donc,
l'abbé Viau, qui parle souvent sur ce micro, était à l'époque franc-maçon et s'est opposé à la loi Veil.
Donc, bien sûr, ça n'empêche pas.
La vérité est la vérité. Mais bien entendu, on sait le rôle majeur, notamment du docteur Simon, dans l'élaboration, avec son livre qui est extraordinaire comme inversion des valeurs de la vie avant toute chose. Bien, mais ce qui nous a toujours, comment dirais-je, stupéfait, c'est que des gens puissent trahir ce qu'ils sont. Parce que, encore une fois, que Leonetti fasse ses gestes d'appartenance, d'habitude c'est à moi les enfants de la veuve. Là, on n'est pas à la télévision, on sait très bien comment cela se passe, le signe de ralliement. Mais là, Jérôme et moi, nous nous comprenons, parce que nous savons fort bien que ceux qui ont finalement décidé de la mort, ce n'était pas forcément des francs-maçons.
Hein ? Avec des ennemis comme ça, on n'a plus besoin d'ennemis, ça je vous le jure, chers auditeurs. Alors, mais Vincent est mort le matin même d'un événement important pour un de ses juges, qui avait été placé sur sa route et quittait le Ponce Pilate sans élever les mains. Et j'ose espérer qu'il va désormais avoir du mal à dormir
et que ces nuits seront hantées par Vincent.
C'est ce qu'a dit Viviane à propos du docteur Sanchez. Elle a dit, j'espère qu'il va faire des cauchemars toutes les nuits.
Nous ne les lâcherons pas.
Oui, mais alors...
Viviane a dit très exactement à Sanchez, docteur, j'espère que Vincent viendra vous réveiller toutes les nuits. Et Sanchez a eu ce mot admirable, madame, ce n'est pas très chrétien.
Oui, elle me l'a raconté.
Et elle lui a dit, docteur, moi je ne l'appelle plus docteur, mais c'est, elle l'appelle encore docteur. Docteur, sachez que je prie tous les jours pour vous.
Et elle m'a expliqué qu'elle souhaitait que sa conscience se réveille pour éviter et qu'il ne paye après sa mort pour le forfait qu'il a commis.
Alors, on nous demande, pouvez-vous développer sur la déclaration du procureur Molins qui expliquait que l'État ne pouvait pas, je lis juste au bout la question, Jérôme, que l'État ne pouvait pas faire sursoir à la mise à mort de Vincent car poser comme principe que la vie... et sacré aurait compromis dans ses bases la légalité de l'avortement.
Oui, je voulais le dire, effectivement. Si vous érigez, a-t-il dit à la Cour de cassation, la vie en valeur suprême, chaque mot a son importance, vous remettez en cause la loi Leonetti et la loi Veil. Quel aveu spectaculaire. Donc en fait, tout est dit. Ils savent très bien qu'ils portent atteinte à la vie dans l'un et l'autre cas, et donc la vie ne peut pas être une valeur suprême dans leur...
Alors qu'on nous a fait le numéro, au moins pour la loi Veil, que l'article 1 qui commençait à par dire le droit à la vie... Et la...
Donc l'aveu est spectaculaire, et il fallait un Molins pour oser le dire. Il l'a dit, non seulement il l'a dit, mais il l'a écrit.
Alors, il y a plusieurs questions dans ce même sens. Un auditeur qui rappelle que Badinter a aboli la peine de mort pour les meurtriers, mais pas pour les innocents. Bon, l'affaire Lambert s'arrête-t-elle avec la mort de Vincent ?
Et non.
Et non.
Ça, il n'y a que François Lambert, le demi-neveu, pour oser proférer une saloperie pareille, alors que le corps de Vincent n'est pas froid. Puisqu'à 11h du matin, Vincent est mort depuis un peu moins de 2h ou un peu moins de 3h. François Lambert convoque une conférence de presse pour dire qu'il n'a aucun chagrin, aucune tristesse, qu'en réalité la tristesse c'était avant tant qu'il était vivant et que maintenant tout est normal, tout rentre dans l'ordre, et que l'affaire Vincent Lambert prend fin aujourd'hui. Non. D'abord, Vincent Lambert n'a jamais été une affaire, c'était un être humain, c'était un petit frère persécuté pour chacun d'entre nous. Et ce n'était pas un prénom ni un nom. Ça n'a été une affaire que pour ceux qui l'ont instrumentalisé comme tel. En revanche, il y a une affaire Vincent Lambert qui va commencer. Et c'est aujourd'hui, cette affaire, eh bien, c'est de tirer les leçons de cette abomination et de méditer, non seulement de méditer, mais d'en tirer des conséquences et des leçons très fortes sur ce crime d'État qui a été commis, sur les mensonges d'État qui ont été proférés avec la complicité des grands médias de tirer toutes les leçons de tout cela. C'est un chantier qu'il va falloir qu'on mette en œuvre et l'affaire de Vincent ne se finit pas aujourd'hui. Ça, c'est une évidence. D'abord, je rappelle qu'il y a des procédures qui sont en cours parce que l'heure des comptes a sonné maintenant. Non pas par vengeance, parce que nous sommes chrétiens, vous savez, je corresponds avec une correspondante, une cliente juive très orthodoxe de Jérusalem, dont je me suis occupé du père, qui a été léonétiquement assassiné de la même manière, malgré le fait qu'un juge lui avait sauvé la vie, il avait une dialyse, il était totalement conscient, il réclamait qu'on continue à le dialyser, et le médecin, forcé par le juge, l'a dialysé en oubliant de lui donner le médicament hypertenseur qui permettait de soutenir le cœur. Il est mort comme cela. Et cette cliente, très sympathique, m'écrivait, j'espère qu'ils vont tous aller pourrir en enfer ces ordures, et je lui dis, non, il faut souhaiter que Dieu touche leur cœur et leur fasse prendre conscience de l'horreur de ce qu'ils ont fait. Et disent non, qu'ils aillent en enfer. Je lui dis, c'est pas très chrétien tout cela. Alors elle rigole et elle me dit, je vous voyais déjà venir, mais vous savez, le Dieu juif est un Dieu vengeur. Eh bien, le Dieu chrétien n'est pas un Dieu vengeur.
Et le Dieu juif non plus. Le Dieu juif dit, ce n'est pas la mort du pécheur que je veux, c'est sa conversion et qu'il vive.
Voilà, mais
et
enfin.
Donc nous, on souhaite que Sanchez se convertisse.
Et nous souhaitons tous qu'ils ouvrent les yeux sur l'abomination. qu'ils ont commises. Certains d'entre eux ont commencé à le faire. Hein. Quand le voile du temple s'est déchiré, beaucoup se sont jetés à terre et à genoux. Quand Jeanne est morte, nous avons brûlé une sainte. Et je pense que dans le secret de beaucoup de cœurs, qu'avons-nous fait ? Qu'avons-nous fait à Vincent ? Et évidemment, nous ne souhaitons rien d'autre pour tous ces gens-là. Parce que nous n'avons pas de haine dans le cœur, nous n'avons pas de vengeance dans le cœur, mais en revanche, nous allons demander des comptes, non pas par vengeance, mais pour protéger les autres. Pour que justice soit rendue. Voilà. Parce que
il y a quand même une nécessité de justice.
Bien sûr.
Parce que sans aller jusqu'à la haine, même si quand même... Devant tant d'abominations,
bien sûr,
devant tant de souffrances, de sadisme, il y a quand même des sentiments qui vous montent. Et alors la haine, il faut la réprimer. Certainement, vous avez raison, Maître Triomphe.
Mais de saine colère.
Mais quand même. Oui, il y a des quand même.
Mais vous avez absolument raison. Et alors donc tout ça pour vous dire que le combat pour Vincent et pour tous les autres continue. Nous avons des actions pénales qui sont engagées. L'une d'entre elles sera jugée contre le Sanchez le 26 novembre prochain, à Reims, à 14h.
Alors pour quelle qualification ?
La qualification de non-assistance à personne en péril. Sur trois fondements. Le premier, c'est qu'il l'a laissé dans un état de dépendance, sans lui donner les soins qui sont dus à tous ses patients comme Vincent. Ce qui fait que... Eh bien, ne lui donnant pas ses soins, il ne peut pas évoluer. N'évoluant pas, eh bien, il justifie le fait d'arrêter. Le plus important étant le fait qu'il ait refusé toute solution de transfert. Alors que dans le code de la santé publique, il y a des solutions, on les lui avait mises sous les yeux, il pouvait le faire. Et il devait au moins examiner cette solution et dire, s'il est transféré, eh bien, je ne le tue plus. Non-assistance à personne en péril. Et surtout... le respect des mesures conservatoires. Parce que je rappelle quand même que les experts judiciaires, dont on ne dira jamais assez les défauts du rapport, mais également les qualités, ont écrit deux choses. Le fait d'alimenter et d'hydrater Vincent Lambert par voie entérale ne constitue pas une obstination déraisonnable et ces situations médicales n'appellent aucune mesure d'urgence. C'est-à-dire que même si le Conseil d'État a validé l'infamie de la décision de mort du docteur Sanchez, rien ne justifiait sur un plan médical et déontologique que le docteur Sanchez ne sursoie pas à son œuvre de mort et n'attende pas le recours devant le CDPH. Nous avons également la plainte pour tentative de meurtre qui sera évidemment classée sans suite par monsieur le procureur de la République Mathieu Bourrette de Reims, mais nous saisirons le juge d'instruction. Nous déposerons également une plainte pour le meurtre consommé sur personne vulnérable et nous avons saisi les instances concernées d'une plainte disciplinaire dans laquelle nous demandons la radiation du docteur Sanchez sur 35 pages de motifs qui ne concernent pas tout ce que je vous ai dit, il y en a encore d'autres, et nous nous battrons pour que le docteur Sanchez puisse être radié parce que c'est un médecin dénaturé. Et parce que le combat judiciaire, vous voyez, continue, il continue pour Vincent, pour qu'il ne soit pas mort en vain, pour tous les autres Vincent, pour ceux qui suivront et pour nous-mêmes. Parce que nous serons tous un jour concernés et si nous laissons tomber aujourd'hui, eh bien, je crois que nous n'aurons pas été fidèles eh bien, à ce qu'on aura fait subir à Vincent et à sa mort. Évidemment, l'action principale, c'est l'action devant le CDPH. Parce que il est une certitude, c'est que la France sera condamnée. La France a humilié l'ONU. La France a parjuré ses engagements. La France s'est rendue coupable d'une forfaiture et il est certain qu'elle sera condamnée pour ne serait-ce qu'avoir violé les mesures conservatoires. Et derrière, nous, ce que nous demandons dans notre requête initiale et que nous allons appuyer et confirmer, c'est que nous demandons au CDPH de constater que la décision du Conseil d'État prise en application de la loi Leonetti c'est une décision et une loi qui sont contraires à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Un seul argument, article 25 de la Convention de l'ONU, on n'a pas le droit de refuser à une personne au motif qu'elle est handicapée l'eau et la nutrition. Mais ça, la loi Leonetti le permet. Est-ce que cette loi est conforme, article 55 de la Constitution, à une convention qui lui est supérieure ? Ça, c'est l'ONU qui le décidera. C'est évidemment, cette procédure est capitale, parce que si demain, l'ONU, par le biais du Comité des droits des personnes handicapées, condamne la France Évidemment, on ne va pas envahir la France avec des casques bleus. Mais si la France est condamnée pour avoir tué Vincent Lambert en violation de ses engagements et des droits qui étaient dus aux personnes handicapées, ce sera une déflagration. Et on saura que la France a assassiné un être humain, et on le sait déjà. Mais là, ça sera officiel. Et c'est l'ONU qui la condamnera. Donc nous nous battons pour ça aujourd'hui.
L'ONU, qui me semble-t-il, a aussi déclaré que l'accès à l'eau potable était un droit fondamental des êtres humains.
Bien sûr, mais bon, ça c'est évidemment un droit universel. Mais parce que si vous voulez, l'ONU, il y a 9 conventions relatives aux droits de l'homme qui sont spécialisées en fonction des catégories. Là, on est sur une convention spécifique aux droits des personnes handicapées, spécifique avec l'alimentation et l'eau, qui est au-delà du droit d'accès à l'eau potable pour tout être humain, eh bien, est due encore de manière plus spécifique à un être humain. Au motif qu'il est handicapé. On ne peut pas le refuser, c'est pourtant ce que fait Leonetti.
Peut-être, Jérôme Triomphe, un mot sur les voix qui se sont élevées, beaucoup, un peu ou pas du tout. Nous sommes autour de ces micros des catholiques.
On va dire un peu, parce que ça ira plus vite.
Je pense qu'il y a eu, heureusement, des évêques qui ont pris...
10 sur position. 120.
10 sur 120. 10 sur 120. Mais il a manqué,
110.
Dans ces 120, aussi, une grande voix, parce que des grandes voix porteuses, ce n'est pas toujours. Il y a eu votre voix, celle de votre confrère Jean Payot. Mais il faut le dire aussi, il a manqué une voix comme celle, par exemple, du père Brut Berger, voilà, qui, avec son talent tout à fait remarquable, donc pouvait se porter. Il n'y a pas eu quelqu'un à sa hauteur. En revanche, il faut le signaler, il y a eu le professeur Hirsch, professeur Hirsch, qui vous a assisté, qui a été avec vous, qui est un professeur d'éthique médicale à l'université de Saclay, qui lui est un juif, qui s'est porté auprès de vous dans tout ce combat. Il faut l'honorer parce que son article dans le Figaro a été d'une hauteur de vue, d'une précision.
Que n'ont pas eu certains évêques, oui.
Et Houellebecq.
Admirable.
Et Houellebecq. Eh bien oui, c'est Houellebecq, dans Le Monde, qui a fait un article où tout est dit pratiquement. Il n'a pas parlé, il n'est pas un catholique. Houellebecq, ce n'est pas une grenouille de bénitier, c'est évident. Mais lui, il a parlé admirablement. Et rien que pour cela, je pense qu'il lui sera beaucoup pardonné.
C'est un immense chroniqueur du nihilisme et de la décadence contemporaine. Depuis, tous ses bouquins sont à la fois glauques, à un point délirant, mais en même temps, c'est la chronique de notre décadence. C'est parce que, en fait, il écrit parce qu'il assiste, comme nous, avec désespoir, à la disparition de la civilisation tout court et de la civilisation chrétienne en particulier.
Oui, et sur ces voix qui se sont élevées, moi, je pense quand même que... Jérôme Triomphe ne me contredira pas. Lors de la première tentative de mise à mort pour Vincent, est-ce qu'il y a eu beaucoup de voix ? On a dû les attendre longtemps. Hein.
Malheureusement, c'est comme pour Michel Houellebecq. Moi, je suis très heureux qu'il ait parlé, mais la plupart ont donné l'impression de se rendre compte qu'en fait, on avait tué un homme. Mmh. Et ils s'en sont aperçus au moment où c'était trop tard.
C'est ça.
Et c'est quelque chose de tout à fait étonnant et tout à fait désespérant, mais nous avons au cœur la petite fille Espérance. Et si c'est arrivé, c'est peut-être que, eh bien, c'était la mort de Vincent était peut-être nécessaire pour ouvrir les yeux des uns et des autres. Et je pense que Michel Houellebecq a ouvert les yeux sur ce qui s'était passé. Il aurait peut-être pu parler avant, mais peut-être qu'il n'avait pas réalisé ce qui se passait. Je ne sais pas.
En fait, Houellebecq a envoyé son article au Monde avant la mort de Vincent.
Oui, j'imagine, parce qu'il a été publié le jour même. Ouais.
Et c'était écrit dans le journal qu'il a publié son article. Donc, il a dû s'en rendre compte certainement trop tard, c'est évident. Mais en tout cas, il n'a pas attendu la mort de Vincent pour publier son article.
Oui, mais attendre le dernier moment.
Oui.
De toute manière, malheureusement, nous, comme disait Bernard, on aurait eu besoin d'une voix forte. On aurait eu besoin d'un Von Galen. Tiens, si vous permettez, je vous coupe. Je voudrais vous lire Von Galen.
Bien sûr.
Je l'ai lu mercredi soir devant Saint-Sulpice. Mais voilà ce que disait Monsieur Von Galen. Je rappelle l'évêque de Münster. Quand, à l'été de 1941, on apprend, il apprend par divers biais que les personnes handicapées mentales sous le Troisième Reich ne sont pas envoyées dans des maisons de repos ou des hôpitaux pour les soigner, mais bien pour les tuer, puisqu'ils en ressortent parfois dans des petites urnes qu'on rend à la famille. Et voilà ce qu'il dit. Nous devons nous attendre à ce que les pauvres patients sans défense soient tôt ou tard tués. Pourquoi ? Ces malheureux patients doivent mourir. Et je rappelle que c'est un programme qui a été mis en œuvre à partir du 1er septembre 1939. Hein, voilà quel était le décret signé. C'était un ordre secret signé par. Vous verrez.
L'action TK, ouais.
Vous allez voir. En fait, alors je vais vous lire d'abord le projet de loi sur l'euthanasie français. Hein, et puis je vous ferai la comparaison. L'euthanasie concernera des patients considérés comme incurables sur la base du jugement humain après évaluation soigneuse de leur situation pour leur accorder une mort miséricordieuse. Non mais ça, en fait, ce n'est pas une proposition de loi française, c'est l'ordre secret signé par Adolf Hitler le 1er septembre 1939 et qui confiait cette offre de mort du programme dit Action T4 au docteur Karl Brandt. Et voilà, quand deux ans plus tard, on apprend ce qui se passe, ce que dit Von Galen, Monseigneur Von Galen, qui l'a payé, hein, qui l'a payé très cher. Nous devons nous attendre à ce que les pauvres patients sans défense soient tôt ou tard tués. Pourquoi ? Ces malheureux patients doivent mourir parce que par le jugement d'un certain organisme officiel. Mais pesez bien tout ce qui est dit, chers auditeurs, on dirait que ce texte a été écrit pour Vincent. Que parce que le jugement d'un certain organisme officiel, sur la décision d'un certain comité, ils sont devenus indignes de vivre parce qu'ils sont classés en tant que membres improductifs de la communauté nationale. Il s'agit d'hommes et des femmes, nos prochains, nos frères et sœurs, des pauvres êtres humains, des êtres humains malades. Ils sont improductifs, si vous voulez, mais cela signifie-t-il qu'ils ont perdu le droit de vivre ? Malheur à nous tous, car nous deviendrons vieux et séniles. Aucun homme ne sera en sûreté. N'importe quelle commission pourra le mettre sur la liste des personnes improductives qui, dans leur jugement, sont devenues indignes de vivre. Et il n'y aura aucune police pour le protéger, lui. Aucun tribunal pour venger son meurtre et pour amener ses meurtriers à la justice. Qui pourra alors avoir une quelconque confiance dans un médecin ? Von Galen. J'ai l'impression de revivre ces 6 années épouvantables pour Vincent. On ne peut s'imaginer la dépravation morale, la méfiance universelle qui s'étendra au cœur même de la famille. Si cette doctrine terrible est tolérée, admise et mise en pratique. Malheur aux hommes. Ah, si on avait eu un évêque qui avait tonitrué de cette manière. On en a eu 2 ou 3, pas plus. Malheur aux hommes quand le saint commandement de Dieu, tu ne tueras pas, que le Seigneur a donné au Sinaï dans le tonnerre et les éclairs, que Dieu notre Créateur a écrit dans la conscience de l'homme au commencement, si ce commandement n'est pas simplement violé, mais sa violation est tolérée et exercée impunément. Ce sermon va tellement bouleverser le peuple catholique allemand qu'il fera reculer Hitler lui-même. Mmh. Eh bien, si on avait eu dit Von Galen en France, Leonetti aurait reculé, Macron aurait reculé, et ils auraient tous reculé.
Et cela aurait sauvé des centaines et probablement des milliers de vies.
Bien sûr.
Je me rappelle, juste après la victoire du 11 mai...
Du 20 mai.
Du 11 mai 2013.
Ah, du 11 mai 2013. Il y en a eu deux.
Et c'était
à chaque fois quand on avait commencé à le tuer.
Et c'était une très belle victoire au bout de 31 jours avec une hydratation minimale et pas d'alimentation. Et j'ai remonté dans mes mails l'autre jour, et dans mes courriels, pardon, et je vois ce que j'ai écrit à mes confrères de la presse écrite. J'ai dit, écoutez, j'ai fait un papier sur la victoire qui a sauvé la vie de Vincent Lambert. La loi Leonetti est une loi euthanasique. Il faut faire quelque chose. Chers amis de la presse catholique, et je ne parle pas du Salon Beige, parce que, bien sûr, et je ne parle pas non plus de...
Il n'est pas catholique, il est intégré.
Je ne parle pas de la griffe, je parle des
comme
catholiques.
Comme les avocats de Vincent Lambert.
Je parle des catholiques convenables. J'ai envoyé mon mail. Zéro réponse. Et il en a fallu du temps. Il en a fallu du temps pour que la presse catholique convenable enfourche le cheval de bataille. Eh oui.
Je voudrais aussi saluer l'engagement de Véronique Lévy, que nous avons reçue ici et qui ignorait tout de l'affaire Vincent Lambert au moment où elle nous faisait l'amitié de venir ici pour répondre à nos questions sur son livre « Dieu ou les robots » ou « Jésus-Christ ou les robots », quel titre prophétique. Et qui... en sortant de ce studio, apprend quelle est la situation réelle de Vincent et qui n'a pas cessé depuis qu'elle est, depuis cette prise de conscience, de se battre chaque jour sur Facebook, de passer des nuits à faire des films pour réveiller les consciences. C'est rare que des personnes que l'on qualifie entre guillemets de people se donnent corps et âme pour sauver un homme lorsqu'elles apprennent sa situation. Et Véronique l'a fait. Donc Véronique, si vous nous écoutez ce soir, ce qui est possible, nous vous saluons et nous vous remercions pour cet engagement qui a été le vôtre toutes ces dernières semaines, ces derniers mois. Et jusqu'au bout, vous aussi, vous étiez devant Saint-Sulpice pour soutenir Viviane et Pierre et pour dire aussi cette colère qui nous habite, cette profonde tristesse qui nous habite depuis la mort de Vincent, depuis la mise à mort de Vincent.
Alors, chose très importante, il y aura, c'est un rendez-vous à ne pas manquer, il y aura une messe de Requiem le vendredi 19 juillet, donc c'est ce vendredi qui vient, à 18h30 à Reims pour Vincent Lambert. C'est à l'église Notre-Dame de France, 8 rue Edmé Moreau à Reims. Une messe de Requiem le vendredi 19 juillet, donc après-demain, pour les auditeurs qui écoutent ce mercredi, à 18h30 pour Vincent Lambert, église Notre-Dame de France, 8 rue Edmé Moreau à Reims.
Et vous pouvez déjà réserver le mois de septembre, probablement le 14 septembre, mais c'est encore à confirmer. Il y aura une messe de Requiem qui sera dite dans une grande église de Reims avec l'accord de Monseigneur de Moulin-Beaufort, l'ordinaire du lieu, qui a confirmé son accord aujourd'hui même. Il faudra déterminer quelle église. Je pense que la basilique Saint-Rémy serait tout à fait adaptée, voire la cathédrale, pour réunir autour d'une messe solennelle dans la forme extraordinaire tous les amis qui ne pourront pas se déplacer parce que c'est l'été vendredi prochain, tous les amis, tous ceux qui se sont battus, qui ont soutenu, qui ont pleuré avec nous, qui ont souffert avec nous, et je pense que ce sera un grand moment d'amitié et de communion entre tous autour de Vincent. Ça sera au mois de septembre, probablement le 14 septembre, mais la date reste encore à définir.
Merci Jérôme Triomphe, il ne nous reste plus que moins d'une minute pour dire que donc, oui, le combat pour la vérité sur Vincent Lambert doit être poursuivi, sera poursuivi.
Oui, parce que même des auditeurs se laissent encore avoir dans certaines questions qu'on ne peut malheureusement pas lire.
On vient, c'est une dernière intervention, c'est trop tard, c'est la fin de cette émission. Mais donc, j'ai pu peser moi-même, par hasard, je suis rentré dimanche dernier dans une église que je ne fréquente pas habituellement. J'ai entendu un sermon d'un pauvre curé qui racontait toutes les imbécilités sur la question, toute la désinformation. Il a donc fallu que je me lève et que je dise c'est faux, c'est faux, c'est faux. Et que je hurle cela. Et donc, je dois d'ailleurs aller le rencontrer pour lui dire vous avez participé au mensonge. Et ça n'en déplaise donc un auditeur, un seul sur les dizaines de questions que nous avons eues. Un seul qui dit « Vous êtes des intolérants ». Oui, on est des intolérants contre la mort. À tout à l'heure.
Comme Von Galen.